Alors, ça tient à sa fin, ce truc, cette aventure. Est-ce que vous le sentez un peu, là? Il y a une transition là, qui s'amorce. Et il reste quelques heures de pratique. C'est bien d'être attentif, particulièrement maintenant, aux états d'esprit, là. Comment... Le mental s'engage. Là, parfois, on a une tendance à passer par-dessus la fin des choses, puis à se retrouver dans la prochaine chose. Hein. Alors, OK, là, c'est la fin. Pourquoi on n'est pas rendu chez nous déjà? T'sais? Il y a comme toutes ces heures. Ça peut être l'état d'esprit dans lequel on est. C'est bien d'être au courant de ça, si c'est le cas. Juste pour voir si on peut rester ici jusqu'à la fin. Vivre ce moment-ci, là. Puis donc, si vous avez quelques pensées autour de comment je vais intégrer ça dans ma vie quotidienne, etc., rapidement, je dirais que les pratiques qu'on a fait ici ce week-end, moi, je trouve qu'ils sont très, très, très transférables. Là. On peut les transférer dans notre vie quotidienne parce que il va toujours y avoir un corps ou une expérience sensorielle. C'est toujours quelque chose qui est accessible dans n'importe quelle condition. Là. Le corps, l'attention au corps en mouvement, l'attention aux états d'âme, aux états d'esprit, aux émotions, au mood. C'est quelque chose qui est... on est invité là, à amener ça dans notre vie. J'ai un collègue, un ami avec qui j'enseigne régulièrement, Temple Smith. J'aime quand il dit, lui il dit, cette attention-là, cette curiosité, ce désir de se poser là, pour vraiment sentir ce qui se passe d'une façon très simple, c'est la meilleure stratégie pour rencontrer la vie. C'est la meilleure stratégie pour être avec ce qui est difficile, c'est la meilleure stratégie pour être avec ce qui est agréable, pour vraiment le sentir, ne pas le rater. Donc, puis c'est ça, moi je pense que je suis d'accord avec ça, là, après quelques années d'exploration de ça. Je trouve que dans le temps passé seul, dans le relationnel, dans le communautaire, pour apprendre une nouvelle tâche, pour en compléter une, pour régler un conflit, pour explorer un moment d'intimité avec quelqu'un, c'est toujours les meilleurs, ça semble toujours être la meilleure option que d'être particulièrement présent. Sans forcer, sans abandonner, mais offrir une certaine présence, peut-être une bienveillance si c'est disponible. Si je peux stabiliser mon esprit, qu'il y ait une sorte d'équilibre, là, de capacité d'être avec ce qui est là. Un peu de curiosité pour ce qui est en train de se passer. Il me semble que c'est vraiment la meilleure façon d'être là où je suis. Que ce soit en ski de fond, ou dans le métro, avec mes parents, ou avec les amis, en fil à l'épicerie, ou à l'aéroport quand on me dit que j'ai raté mon avion, ou que l'avion est retardé de 2 heures encore après 7 heures d'attente. Je me dis ça, ah oui! C'est vrai que là, j'ai l'option d'être vraiment absolument irrité, de faire un truc. Puis j'ai l'autre option d'être très présent, très équilibré, le plus possible, avec toutes les défaillances, là, évidemment, dans le système. Mais de cette façon-là, moi, je pense que le travail fait juste continuer, là. Je disais à quelqu'un ce matin, il va continuer à y avoir des portes, des escaliers, des... Ça reste, là. Il va y avoir le corps qui est assis, peut-être dans une auto, sur une chaise différente, ou un autre lazy boy, ou sofa. Mais... les instructions du Bouddha sont tellement simples, avec les 4 postures, par exemple. Peux-tu être au courant? Conscient que tu es assis quand tu es assis. Peux-tu être conscient que tu es couché quand tu es couché? C'est très rare qu'on fait ça. Nathalie Goldberg qui dit « Si vos problèmes vous semblent plus réels que le fait que vous êtes assis, ce qui est le cas la plupart du temps, j'ai l'impression, non? Nos problèmes, nos pensées, nos productions de bananes intérieures nous semblent beaucoup plus réelles, malgré qu'elles soient fictives, là, des créations de l'esprit, nous semblent plus réelles que le fait qu'on est assis. » Donc elle a dit « Si vos problèmes vous semblent plus réels que le fait que vous êtes assis, peut-être que la méditation pourrait être une option, là, apprendre à être au courant que c'est ce qui se passe. » C'est beau parce qu'il y a quelque chose de très primaire là-dedans. Puis, nous, on cherche la complexité un peu. Oui, mais non, mais tu comprends pas. Non, peux-tu vraiment être conscient que tu es assis en ce moment? Que ça respire. Un des profs de Joseph Goldstein, un de mes profs que j'adore, que vous connaissez peut-être, avec qui vous avez pratiqué peut-être aussi. Un de ses profs, Munindraji, avait cette instruction-là régulièrement. Il disait « Assis-toi, sache que tu es assis, et toute la nature de la réalité va être révélée pour toi. » C'est des instructions très très simples, ça. « Assis-toi, sache que tu es assis. » Puis tout va partir de là, tout va découler à partir de ça. Donc, on n'a pas à faire un truc là, très complexe de comment je vais intégrer ça, tout ça. Non, comment je suis en ce moment ici? Est-ce que je peux être conscient de comment je suis ici? Prenant soin de ce moment-ci, les chances que je puisse prendre soin du prochain moment sont d'autant plus grandes. Là. Et peut-être aussi se rappeler que cette pratique-là, oui, il y a les insights, oui, la précision, etc., mais le but final, je pense que c'est l'ouverture du cœur quand même. Là. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on dit que quand on fait cette découverte-là profonde sur la nature de la réalité, ce qui arrive spontanément, c'est que le cœur ouvre, que la réponse... ce qui vient spontanément, la nature de l'esprit, c'est d'être bienveillant, d'être... En anglais, on dit « responsive », c'est de répondre. Puis ici, ce week-end, on a mis un peu l'emphase là-dessus, puis on peut garder ça à l'esprit, l'idée d'un esprit amical, à la fois amical et stable. Alors l'équanimité et metta, la bienveillance, alors un esprit qui tend, qui est intéressé par le calme, comment les activités que je fais peuvent amener une stabilité, une présence, un calme, comment mes opinions, mes réflexions peuvent favoriser le calme, la stabilité. Alors on voit des fois nos opinions, est-ce que ça sert vraiment à nous calmer, l'utilisation de notre pensée, est-ce qu'on s'en sert pour calmer l'esprit, pour équilibrer ou pour s'agiter, s'auto-agiter? On peut être conscient de ça. Alors, l'équilibre, puis la bienveillance, et oups, dès que quelque chose devient difficile, naturellement, la compassion, ça devient de la compassion, on se préoccupe, on prend soin de ce qui est difficile, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça a peu d'importance en fait. D'un autre côté, quand il y a l'équilibre, la bienveillance, naturellement, si quelque chose de bien, de beau se présente, se passe intérieurement ou extérieurement, on est capable de se réjouir. Mudita, mudita. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, mudita? C'est le nom de l'organisme ici. C'est un très beau nom. Alors, la capacité de se réjouir pour ce qui se passe, ça prend aussi une certaine stabilité. Sinon, on va facilement tomber dans l'envie, la comparaison. Si l'esprit est naturellement bienveillant, équilibré, hop, on va pouvoir, avec tendresse, toucher à ce qui se passe bien. Puis, les deux sont importants. Hein? La compassion nous invite à aller dans les régions difficiles. Puis mudita, la joie, nous invite aussi à ne pas oublier, à équilibrer de cette façon-là, en ne manquant pas. Là. Ah, tout est impermanent. Non, tout est impermanent et ce moment-ci est particulièrement précieux. Puis donc, on ne s'impose rien, ça va rester, comme on dit en québécois, tout croche. Ça ne sera pas fait parfaitement du tout, c'est encore une fois une garantie absolue. Ça va être beaucoup plus chaotique que ça, beaucoup plus, en anglais on dit « messy ». Ça ne sera pas propre, là, et linéaire, ce truc. C'est ça, c'est certain. Et est-ce que ça peut être OK que ça soit fait c'est ça, très loin d'être parfait. Est-ce qu'on peut avoir cette humilité-là, d'être OK avec le fait qu'il va y avoir des dérives, que ça va déraper d'un côté et de l'autre, pour l'autre, pour moi? Quand on voit la force dans le silence, comme ce week-end, quand on voit la force des tendances, la force des états mentaux, forcément, ça nous rend humbles un peu. On peut avoir du respect pour... je ne sais pas si c'est le bon mot, du respect, mais on voit que les vagues d'impatience peuvent complètement nous prendre puis retirer toute sagesse pour quelques secondes. Tout le calme, l'équilibre peut disparaître très, très rapidement. Puis ça fait partie de ce qui va se passer. Ça m'avait étonné il y a quelques années, j'avais entendu Carol Wilson, quelque chose comme ça, qui disait « Après, je sais pas, genre, après une vingtaine d'années de pratique, je commence à avoir un peu plus de respect pour les états mentaux et leur force. Je commence à comprendre que c'est pas nécessairement moi qui va tout diriger, là, que ces forces-là sont puissantes. » C'est bien de penser à ce travail-là. C'est à peu près le seul moment où est-ce que je pense aux renaissances, aux plusieurs vies. Je me dis, ah oui, on a peut-être plusieurs vies pour travailler là-dessus. Ça donne un frame un peu, un cadre un peu plus large. Là, que c'est un travail d'une vie, puis peut-être de quelques-unes. Et c'est pas une raison pour abandonner. Là, c'est pas une façon de se dire, ah, on s'en fout. Pas du tout. On est très engagé et une perspective très large là-dessus. Là. Alors, je vous invite à prendre votre posture de méditation, si ce n'est pas déjà fait. Pour les... peut-être les plus ou moins 30 prochaines minutes. Invitant un beau mélange là, de détente et de présence. On est dans les dernières minutes là, de moment de cette retraite-ci, alors c'est très précieux. Peut-être que vous vous dites « Yeah, enfin, fini ». Ou pas. Mais ce silence-là là, va bientôt être disparu. Le Bouddha comparait le corps, l'expérience sensorielle, à l'écume au bord de la mer ou d'une rivière. changeante, une forme constamment changeante. Est-ce qu'on peut avoir accès à ça juste ici maintenant? La nature un peu de rivière, des sensations, le passage des picotements, la chaleur qui irradie, ou le froid qui touche encore. L'expansion, la contraction du ventre ou de la poitrine. L'énergie qu'on peut peut-être sentir circuler dans le corps. La vie dans la colonne vertébrale. La vie du visage aussi. Comparer nos expériences de plaisir, déplaisir, neutralité à des bulles. Sensation désagréable, une respiration apaisante, moment de calme dans l'esprit, d'agitation désagréable. Comparer les formations mentales, les désirs, les aversions, les histoires de moi, avant, après, je suis, je serai, qui serai-je? L'arbre de plantain, sans tronc, vide au centre. Et comparer toute l'expérience de la conscience à un spectacle de magie. Apparence. Apparition, disparition. C'est possible d'être ici au milieu de tout ça avec une certaine légèreté. Sachant que même ce qui paraît grave est en fait peut-être plus éphémère, léger qu'on ne le croit. Peut-être possible d'être ici sans s'approprier quoi que ce soit, sans s'identifier à quoi que ce soit, laissant les sensations, les pensées, les impressions passer librement. Ni moi, ni mien. Simplement existant, apparaissant, disparaissant. si vous vous rendez compte que l'esprit a créé de la gravité, des nœuds, c'est de voir si vous pouvez reconnaître la nature éphémère. Voir que c'est une création de l'esprit. Puis peut-être relâcher un peu. Laisser les nœuds se dénouer.
Thank you.